Bigre Radio.
Bigre Radio. Ici Paris, le Bigre Débat.
Le Bigre Débat.
Nous sommes de retour sur le pape plateau d'ici Paris, le Bigre Débat sur la Bigre Radio pour échanger avec Catherine Baudet à partir de l'ouvrage collectif Réelle Source Ressources sur le sujet. Fabriquer l'égalité manifeste pour en finir avec le sexisme dans l'économie sociale et solidaire. Alors, re ou bonjour Catherine Baudet.
Bonjour.
Ça dépend si on considère le off ou pas. Peux-tu te présenter succinctement afin que les auditeurs et auditrices, apprennent à te connaître afin de rentrer directement après dans le vif du sujet, avant de rentrer dans le vif du sujet.
Ok. Alors, je suis ex-copanamienne. Je suis restée salariée 10 ans à Copanam. Je suis toujours associée et je suis co-gérante de la Manufacture Coopérative, qui est donc une coopérative de recherche-action.
Recherche-action dont on a déjà entendu parler. Aujourd'hui, ça tombe bien. Décidément, à la Bigre Radio, tout est cohérent. Passons maintenant, si tu es d'accord, à rentrer un peu plus en détail dans ce sujet. Néanmoins, capital et vibrant, qui est celui de l'égalité entre les genres. Vaste sujet. Une question d'ordre général. Penses-tu que ce sujet est suffisamment mis en avant dans les structures qui font l'ESS aujourd'hui ?
Clairement non, puisqu'on a dû écrire ce manifeste. Donc, non. c'est aussi... le sujet est peu mis en avant et c'est un des constats de la recherche-action qu'on a fait. En fait, le manifeste, il est issu d'une recherche-action qui a commencé en 2018, qui a commencé bien avant avec Copagenre à Copanam, puis avec Copeg, la recherche-action qu'on a fait aussi au niveau de Copanam. Enfin, il y a tout un historique qui est long, mais on a fait une recherche-action en 2018 qui était centrée sur la question, en fait, pourquoi il persistent des inégalités dans des structures où il ne devrait pas y en avoir parce qu'il y a des valeurs, parce qu'il n'y a pas de volonté de discrimination, etc. Donc c'est ça le point de départ. Et ce qu'on a observé, c'est en fait une invisibilisation des questions d'égalité. Et donc la réponse, franchement, est non. En fait, on s'intéresse pas à cette question dans l'économie sociale et solidaire. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a une espèce de manque de temps, c'est pas prioritaire, il y a toujours plein d'urgences, il faut se payer à la fin du mois,
c'est une urgence vitale, presque.
Voilà. Il y a une autre raison qui est une absence de statistiques dans pas mal de PME, dans l'économie sociale et au-delà. On mesure pas, en fait, donc on voit pas, donc on sait pas qu'il y a des inégalités. Par exemple, à Copanam, avant de faire le rapport de situation comparée, on ne s'était pas rendu compte qu'il y avait moins d'associés femmes, parce qu'il y avait en gros autant d'hommes que de femmes dans les associés, mais il y a plus de femmes salariées, donc de fait, il y a moins de femmes qui s'associent. Et ça, si on ne fait pas les statistiques claires, et ben on ne le voit pas, en fait. Et la dernière raison de l'invisibilisation, c'est une espèce de déni au nom des valeurs. En fait, on est bon, donc
on n'a pas de questions à se poser.
Donc, il n'y a pas de discrimination. On a des valeurs qui sont des valeurs égalitaires, de solidarité, etc. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes. Or, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que nos structures ne sont pas étanches, en fait, aux stéréotypes et aux inégalités qui traversent la société. Et si on fait rien en positif, ben de fait, on fait quelque chose. De fait, on fait quelque chose, on laisse se reproduire ces inégalités.
Oui, c'est un peu l'inaction
est une action, en fait.
Voilà. J'arrivais pas à le formuler, mais c'est exactement ce que je voulais.
Et c'est vrai que c'est pas évident à prendre conscience, en fait. Et c'est pas un discours culpabilisant, c'est vraiment un discours. Ben, de fait, si on ne fait rien, effectivement, on fait quelque chose. Parce que la société est inégalitaire, et c'est le titre du manifeste, hein, pour en finir avec le sexisme, c'est un sexisme qui est structurel. Et si on ne fait rien, eh ben ça continue. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
C'est structurel, ancien, et peut-être c'est lié aussi au fait que les femmes aient pris du temps à prendre conscience du coup de toutes ces questions-là, ou alors au moins enfin pas le prix du temps à prendre conscience, mais est-ce que ça se soit visible?
Oui, je pense qu'il y a pas mal de choses qui évoluent en ce moment dans les représentations et dans les mouvements aussi, au-delà de l'économie sociale, hein, dans tous les mouvements qu'on voit, c'est assez dynamique, assez joyeux aussi parfois. Enfin, il y a une espèce de renouveau qui est intéressant, et c'est aussi ce qu'on a voulu faire dans le manifeste, que ce soit pas une posture victimaire, que ce soit pas la revendication, mais que ce soit de donner aux gens l'envie d'y aller, quoi.
C'est plutôt positif que comment dire, acharné, si je puis dire, en termes un peu plus...
Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on a voulu, faire quelque chose de positif qui donne envie et qui soit plutôt dans la joie que
dans l'apaisement,
que dans la douleur.
Dans la communication, oui. Est-ce que tu as connaissance d'autres démarches de recherche-action ou bien d'ouvrages qui témoignent de situations vécues, mais bien au-delà de l'ESS ? C'est la même question.
La recherche-action, c'est assez typique de l'ESS, donc c'est pas, je vois pas trop en dehors. Il y a déjà eu des démarches qui ont été faites. Alors, j'ai pas en tête le titre là de ce bouquin, mais suite à une agression sexuelle dans une coopérative, ils ont fait toute une recherche-action et tout un bouquin qui était. On le cite dans le manifeste, mais là, j'ai plus en tête le nom.
Comme ça incite les auditeurs auditrices à aller lire l'ouvrage.
Voilà. Et c'est super intéressant, c'est super documenté, c'est un bel ouvrage en plus, donc ouais, il faut y aller. C'est La Trouvaille, le collectif d'autrices.
D'autrices. Justement, pour rebondir tout de suite sur ce qu'on vient de dire, à savoir le mot d'autrice, la méthodologie du livre est assez intéressante en ce sens-là, qu'elle utilise l'écriture inclusive, mais sur ses différentes exceptions, différentes formes. Bon, moi, j'ai moi-même essayé, là, dans la radio, de parler inclusif. C'est pas si évident. Et ça questionne aussi notre propre rapport au langage et comment on l'utilise, qui n'est finalement pas si anodin, mais on s'en rend pas compte. Enfin, moi, je suis en cours de transition et d'acceptation aussi de changement de langage. Pourtant, il me semble qu'en effet, c'est en utilisant ce langage et en maniant les mots et qu'on se les approprie, en fait, que le langage bouge et que la pensée aussi. Tout est un ensemble, tout est connecté, et que c'est par les mots, en fait, qu'on fait que...
Qu'on pense.
Qu'on pense, et que notre rapport au monde est construit, se construit, et il y a des échos, en fait. Donc, voilà, c'est important, parce que dans ce livre, chaque chapitre, en fait, teste et éprouve un peu... une manière d'utiliser l'écriture inclusive. Et à la fin de chaque chapitre, il y a même un rapide commentaire. Juste pour un exemple, pour encore en frustrer un peu plus les auditeurs, auditrices et auditrices, pour qu'ils aillent lire l'ouvrage, exemple, page 41, ce chapitre est écrit au féminin. Cela vous a-t-il choqué, interpellé ? Lorsqu'on utilise le féminin, il est clair que les hommes sont exclus. Eh bien, il en est de même lorsqu'on utilise le masculin. Pour moi, c'est assez clair que ça révèle des choses. Justement, est-ce qu'il y a une façon qui te paraît la plus évidente ou plus simple, plus efficace ou plus égale au regard de tout ce que vous avez testé et éprouvé ? Et est-ce que c'est pareil à l'écrit, à l'oral, un peu ?
Alors, moi, j'aime bien la citation qu'on met aussi dans le bouquin d'un linguiste qui dit « L'écriture inclusive ou le français inclusif, c'est pas une police de la langue, c'est une liberté de penser. » Et ça, je trouve ça très intéressant. Et l'idée qu'on a voulu montrer dans le bouquin, c'est que on n'a pas à dire comment ça doit être. On a envie de dire « expérimentez, testez des choses et vous verrez bien ce qui vous plaît, ce qui passe, ce qui ne passe pas, ce qu'on a envie de garder, ce qu'on n'a pas envie de garder ». Et le fait de le faire par chapitre, au départ, quand on a imaginé le bouquin de façon collective, une idée qui est apparue, il y en a eu plein des idées qui sont apparues, mais c'était de dire « on va se mettre des contraintes un peu à la Oulipo ». Et on ne savait pas au départ ce serait quoi comme contrainte. Et puis finalement, c'est cette contrainte-là qui est arrivée. Et voilà, c'était cohérent avec notre idée de dire, par ailleurs, sur ces questions d'égalité, il faut expérimenter, il faut essayer d'augmenter le pouvoir d'agir et même se tromper, c'est pas grave.
On essaye. Pour voir ce que ça donne et comment on réagit aussi.
Et surtout aussi éviter la perfection, parce que la perfection, elle bloque. quand on dit il faut faire quelque chose et on va être parfait pour pas être critiqué, par exemple, parce que il y a beaucoup de réactions négatives. Et ben la perfection finalement elle bloque parce que par définition on ne sait pas ce qu'il faut faire pour sinon on l'aurait déjà fait quoi. Et du coup faut ce qu'on a voulu montrer c'est essayer de se libérer de cette perfection, de se donner le droit d'expérimenter et puis garder ce qui marche et puis et avancer comme ça.
C'est assez intéressant aussi pour l'avoir testé dans le langage courant de la vie quotidienne, quand on bouge l'utilisation de certains termes, la réaction ou la non-réaction de la personne, de l'interlocuteur ou interlocutrice en face, ça bouge quand même des choses. Et des fois, ça passe naturellement, alors que c'est un mot que d'habitude, on n'a pas l'habitude d'utiliser.
Autrice, ça vient très vite. Hein.
Autrice,
en fait,
oui.
C'est comme actrice, quoi. C'est même racine.
Justement, j'avais prévu la citation.
C'est une sonorité qu'on connaît bien. Et en fait, les réactions contre ce mot sont très, très bizarres, quoi. Et il y en a beaucoup. Hein.
Je peux frustrer un peu plus en lisant cette petite citation.
Vas-y.
Je mets le livre comme il le faut. Un exemple de ce retour à l'ancien français est celui du mot autrice, courant au Moyen-Âge, puis interdit d'usage. Il se développe à nouveau aujourd'hui, bien qu'encore contesté, contrairement à son cousin actrice, pourtant construit de la même façon. Une femme actrice dérangerait-elle moins l'ordre établi qu'une femme autrice ? Oui, le français inclusif, c'est politique. Ça parle ?
Tout est dit.
Tout seul. Voilà, passons à une autre question. si je te dis co-déconstruction, à quoi tu es, qu'est-ce qui vient en tête et un petit peu, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ?
Alors, l'idée qu'on a voulu exprimer là, c'est que, en fait, déjà, on est parti des expériences des personnes. Et notamment lors d'université éphémère qu'on a fait en 2018 sur les questions d'égalité, il y a eu vraiment beaucoup d'expressions de personnes qui essayaient de faire des choses dans leur coopérative ou dans leur association, c'était plus large que les coopératives, qui disaient que se retrouver seul c'était compliqué et qu'il y avait besoin sur ces questions-là de faire réseau en fait. C'est pour ça, ça rejoint un peu aussi la discussion d'avant du coup hein, sur la fédération. Est-ce que la capacité de faire réseau peut aussi alimenter ces questions-là ? Copagenre, par exemple, au départ, c'est né à Copanam, et maintenant, c'est intercoopérative. Il y a un besoin, en fait, de partager. Et c'est trop compliqué tout seul d'avancer, y compris pour soi-même. C'est en discutant et en échangeant des lectures, des podcasts, des machins, qu'on évolue, quoi.
Mais justement, en parlant de podcast, Copagenre a été programmé dans cette Bigre Radio. Donc, vous pourrez aller écouter, bien sûr, plusieurs petites choses. Le collectif Régalons-nous aussi.
Bien sûr, co-autrice du manifeste.
Voilà, il faut quand même en parler. Je te propose maintenant, si tu le veux bien, de parler un petit peu de la posture des hommes face à la mobilisation féminine. C'est pas forcément évident. Alors, comment on pourrait leur parler, en fait ?
Alors, il y a un chapitre qui s'appelle « La part des hommes » dans ce bouquin. Au départ, on n'était pas sûr d'en faire un. Et puis, il y a notamment un gars qui avait plein d'idées sur la question. Donc, finalement, c'est le premier chapitre qui a été écrit. Alors, ça remet en cause beaucoup... l'idée, c'est de montrer des habitudes de comportement masculine... qui sont notamment de prendre la parole à la place des femmes, notamment sur les questions féminines, de mansplaining, etc. Enfin, il y a plein d'habitudes qu'il faut déconstruire pour pouvoir avancer collectivement sur ces questions. Et c'est intéressant parce que moi, je connaissais pas avant cette université éphémère et puis la suite qui a eu lieu. À la Bigre 2018, où ça a été très explicité, en fait, ces groupes d'hommes qui essayent de faire des choses dans leur coopérative. Et c'est intéressant de le partager, parce que du coup, ça montre qu'il y a plein de pistes qui permettent de, à tout le monde de faire quelque chose. Il y a des podcasts qui sont intéressants aussi sur cette question, sur les masculinités. Les couilles sur la table, par exemple, c'est un podcast que moi j'écoute régulièrement qui amène des choses assez intéressantes. Le dernier, c'est sur le genre du capital. C'est à écouter. Voilà.
Justement, certains hommes se posent en alliés. Qu'est-ce que cela représente concrètement ? Ce n'est pas non plus une posture forcément très évidente.
Il faudra leur demander, en fait. Moi, je ne sais pas trop. Hein.
Mais oui, mais justement, c'est un peu une invitation à certains hommes de se positionner peut-être sur leur propre vécu. Mais j'ai remarqué que la prise de parole des hommes, même sur ces sujets-là, est déjà en soi délicate.
Mais ce qu'ils disent, les mecs ont réfléchi un peu à cette question. La première chose à faire, c'est ça se mettre en retrait. Ce qui n'est pas facile, en fait, de façon habituelle. Et c'est vrai que je peux raconter une anecdote. On a invité Silvia Federici dans le cadre de cette recherche-action, qui est une super chercheuse, super intéressante, qui est venue des États-Unis. On était dans un bel amphi de la Sorbonne. Elle nous a fait tout son speech d'une heure. Puis après, il y avait un débat avec la salle. Et il y a un gars qui a à peine 30 ans qui a pris la parole en me disant « C'est super intéressant ce que vous avez dit, mais moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, alors je vais vous expliquer la vie. » Et alors, on était quand même étonnés, on va dire. Non, tout le monde lui est tombé dessus, en vrai. Mais c'est fou, quoi. C'est en fait inimaginable, mais c'est la réalité. En fait. Donc la première chose, c'est la prise de conscience, et puis après... Chacun agit avec ce qu'il est, mais...
Oui. Voilà. Après, je pense que c'est pas forcément évident aussi, parce qu'il y a peur aussi peut-être du regard, de comment on va les considérer, en fonction de ce qu'ils vont dire, le choix des mots, plein de choses qui, en fait... après, on ne sait pas, nous ne sommes pas des hommes, donc nous ne pouvons pas répondre à leur place.
Exactement.
Par définition. Le débat s'ouvre. Si vous voulez réagir par téléphone au 07 plus 33 7 63 62 27 64, il n'y a pas de souci, hein, on vous accueille. Alors, je ça m'a un peu troublé cette question. Écoutez, il faut l'assumer, hein, ça arrive, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu souhaiterais détailler à propos... de ce livre, plus généralement, sur toi, ton expérience de coordination, ta posture, en fait.
Moi, je trouvais que c'était une super expérience, ce bouquin. Déjà, sur l'émergence de l'idée d'un bouquin, c'est apparu lors d'un atelier de restitution des résultats de la recherche-action. Donc, il y a une des tables qui bossait sur qu'est-ce qu'on peut faire après ça, qui a exprimé l'idée de écrire un manifeste pour mettre les pieds dans le plat. Donc on s'est dit, ça c'est une chouette idée, on va essayer de la mettre en œuvre. Après on a donc trouvé une petite équipe, on était 10, et on a fait un premier atelier d'émergence en fait, notamment avec qu'est-ce qu'on a envie et qu'est-ce qu'on n'a pas envie. Donc on a un peu sorti tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on ne voulait pas. Dans ce qu'on ne voulait pas, il y avait la posture victimaire, il y avait des chiffres et des camemberts, il y avait je ne sais plus quoi. Est-ce que... Oui, on ne voulait pas faire un guide pratique aussi, on voulait à l'inverse ouvrir les possibles plutôt que les renfermer sur un guide. Et ce qu'on voulait, c'était, je l'ai un peu dit au début, mais c'est donner envie d'agir, donner envie d'expérimenter ouvrir le champ et partir aussi de toutes les expériences qu'on avait les unes les autres pour les partager et pour donner des pistes, quoi, sans enfermer les lecteurs et les lectrices dans une unique voie, mais au contraire en disant nous on a vécu ça donne des expériences à partager, mais après chacun fait sa route et chaque structure est différente, chaque groupe est différent, et néanmoins c'est en partageant toutes nos expériences et dans le collectif qu'on peut avancer sur ces sujets.
Et je rebondis aussi sur le positionnement des hommes là-dedans. J'ai travaillé sur, pour préparer cette interview avec Leïla Papo, et elle relevait aussi le fait que le ressenti de certaines femmes dans ces moments où les hommes peuvent des fois prennent la parole sur ce type de sujet, qui d'un coup deviennent crédibles aux yeux des autres, alors qu'ils parlent pas, enfin ils parlent d'une situation qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne la vivent pas de l'intérieur. Et c'est assez compliqué parce qu'elle me disait que comme c'est un sujet que les femmes traitent depuis longtemps et défendent, et enfin des fois même avec vraiment vigueur et enjeu réel et fort, c'était des fois compliqué que justement ces voix masculines étaient des fois prédominantes ou passées au-dessus. Alors voilà, le positionnement n'était pas évident, mais ça fait partie des choses, je pense, des points discutables. Je sais pas.
Nous, en tout cas, on ne l'a pas vécu dans la rédaction de de ce livre. Après, on a rencontré aussi un peu une angoisse, c'est peut-être un peu fort, mais des fortes interrogations de l'éditrice quand on est arrivé avec cette idée-là. Okay. Et il fallait que ce soit prêt. On était en avril, il fallait que ce soit prêt pour septembre, et on n'avait encore rien écrit. Et on était 10, et elle dit comment on va faire. et finalement, on a réussi à le faire, et c'était vraiment chouette. Alors bon, les télés étaient un peu laborieux, hein, mais c'était assez fluide. On a beaucoup utilisé des drives, en fait. Hein. On mettait des textes en ligne, et puis chacun mettait des commentaires. Et c'était assez, assez fluide, en fait.
Après, je trouve qu'il est très maniable, ce ouvrage collectif. C'est-à-dire que c'est pas lourd. On peut le prendre, lire un chapitre, le fermer, le réouvrir. Enfin, ça fait pas peur, quoi. C'est pas un gros pavé. C'est accessible.
Ouais, c'est le retour qu'on a eu aussi, globalement. La lisibilité du bouquin est bien appréciée.
Et c'est apaisé. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de... Voilà, enfin, je veux dire la forme. Bien d'accord. Eh bien, merci.
Eh bien, avec plaisir.
Catherine Baudet, pour cet échange qui nécessiterait encore davantage de questions.
Je reviendrai.
D'accord. Très, très bien. Eh bien, merci. Tout de suite, je regarde mes autres personnes avec le micro.
Bonjour.
Bonjour.
Santé.
On va pas tarder à conclure, quoi, c'est ça ?
C'est ça.
C'est l'heure de la fin de la deuxième journée de radio.
La deuxième journée de radio.
Ce qui est terrible, c'est qu'il en reste plus qu'une, quoi.
Ou pas. Nous pourrons en reparler.
C'est là que tu fais un... avec ton... Voilà, c'est ça, c'est Monsieur Jungle. Pour jingle, hein, bien sûr. Bref, reprenons le cours de cette émission. Les remerciements, hein, la fin de la journée, c'est comme ça que ça se termine. Ben, nous remercions déjà nos accueillants du jour. Marie Le Sage de Copenhague et fidèle Navamuel de l'EMI CFD. Mais aussi la Confédération Générale des SCOP et Nogozone, pour l'accueil des ateliers.
Nous remercions également les intervenantes et les intervenantes de la journée. Marie-Gilles de Charleroi, des Colibris dégourdis, Céline Pochon et Samuel Michalon de Vivre le Travail, Julien Charles du CESEP et de Smart, Arnaud Clair de Atterrir Plus Vivant, Nicolas Loubet de Lamine à Lyon, les Ozobigrateurs, Hervé Gouil et Benjamin Chaupetit, Anne-Claire Pignal de la CGSCOP, Stéphane Veillère et Catherine Bonnet de la Manufacture Coopérative.
On remercie aussi tous les animateurs d'ateliers et les participantes de cette journée, venus de tous les coins du monde coopératif. Je viens de checker le formulaire d'inscription et je me lance donc dans un inventaire à la Prévert de toutes les coopératives qui étaient présentes aujourd'hui, en espérant n'oublier personne.
Pam, 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 pam.
Des gens de Smart, de Copenhague, d'Oxalis, bien sûr, mais aussi Vecteur Activité, La Forge, Aliscope, Graines de Sol, la Manufacture Coopérative, la Coopérative Poincaré, la Maison de l'Initiative, Hélicop, Grands Ensembles, Créasol, Cop City, Artefact, Cinescence, Prisme, Sapi, le Comptoir des Entrepreneurs et Artefact.
Et celle que tu es désolée d'oublier.
Absolument. Désolée.
On ne s'excuse pas, il paraît, mais bref. Je remercie aussi nos podcasteuses, le collectif Copagenre, Vivre le Travail, le collectif le rubrique.coop, pardon, Mathilde Ozias et Alexandre Iaconi, notre merveilleux, sublime et génialissime au taquet monsieur technique, qui n'en peut plus de ses remerciements, mais il faut le dire, quand ça assure derrière, il faut le dire.
On remercie les bigristes radioactifs, Lucie Valade pour la coordination éditoriale et l'animation des émissions, et bien sûr, celui qui fait tenir une radio dans une valise, à la technique, Alexandre Iaconi.
Je remercie, excusez-moi, l'équipe intercoopérative internationale de la Bigre Caravane, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Et encore une fois, j'y vais, c'est parti, la liste commence maintenant. Gaëlan Royer, Aude Virgo, Lucie Gross, Christophe Bellec, Karine Julien, Marcella Mileto, Miti, monsieur, j'ai peut-être fait une petite erreur.
Militello.
Militello, si, je me suis trompée, pardon. Thierry Plantagenet, Germain Lefebvre, Noémie de Grenier de Bonheur de Bonne Humeur, Copanam, Sparte et Oxalis qui ont mis les moyens pour que cela se fasse. Maintenant, une clôture plus classique avec la suite du programme sur la Bigre Radio en ce mercredi 26 août 2020. Donc à suivre, dans cette Bigre Radio, le dernier épisode de rubrique.coop enregistré pendant le confinement, avoir la quarantaine ou être en quarantaine. En suivant 5 minutes d'interview d'entrepreneur par Alexandre Iaconi, notre technicien, podcast lui aussi enregistré pendant le confinement intitulé « Le monde qui vient et moi ». Et enfin, pour clôturer cette deuxième journée de la Bigre Radio, un créneau dédié à Bigre Oasis. On se retrouve vendredi, si vous le voulez bien, dans les derniers studios éphémères de la Bigre Radio, qui s'installera cette fois-ci à Bruxelles, dans les locaux de La Vallée. Mais aujourd'hui, en guise d'ultime conclusion et pour ne pas rester figé dans les habitudes trop vite, j'ajoute un ressenti personnel suite à ce dernier sujet qui a été abordé ici, sur l'égalité entre les genres. Nous gagnerions toutes et tous à nous poser cette question que je réadapte volontairement de l'ouvrage. Dans les vécus de chacune et chacun, en écho à ceux de nos proches et à d'autres informations reçues, posons-nous cette question. Et si j'avais été de l'autre sexe, comment cela se serait-il passé ? Il y a d'autres questions qui sont derrière cette question, je ne l'oublie pas. Parfois, bouger un peu de regard suffit à éclairer bien des situations. Je vous laisse méditer.
Bigre Radio.
Bigre Radio. Ici Paris, le Bigre Débat.
Le Bigre Débat.